Salut tout le monde, épisode numéro 14. Donc, suite à l'épisode de la semaine passée avec Vincent Comtois, j'ai eu beaucoup de questions sur plusieurs sujets qu'on a parlé, dont celui des édulcorants. J'ai donc décidé de clarifier plusieurs choses à ce sujet-là cette semaine. Donc, on va parler plus spécifiquement du sucralose qui est utilisé dans plusieurs produits, mais qui va être utilisé beaucoup dans les suppléments qu'on va consommer. Puis, ça peut être un problème. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le sucralose? C'est ce qu'on appelle un édulcorant. Un édulcorant, c'est une molécule qui va goûter très sucrée, mais qui ne va pas avoir la même teneur calorique que le sucre qu'on connaît. Donc, par exemple, le sucralose, c'est une molécule qui est synthétisée par une molécule chimique qui est synthétisée par l'humain, qui va avoir un goût 600 fois plus sucré que le sucrose, mais qui contient pas de calories. Cette molécule-là a été approuvée par la FDA, Food and Drug Administration, en 1998. Puis, eux ont statué à cette époque-là que l'apport quotidien qu'on va considérer comme acceptable est de 5 mg par kilogramme de poids de corps, ce qui équivaut à environ, pour une personne de 180 livres, plus ou moins 400 mg par jour, qui est l'apport quotidien acceptable maximal. Pour une personne d'environ 130 livres, on va parler plus de 300 mg. Donc, pour une personne moyenne, on pourrait dire que c'est environ 350 mg l'apport considéré comme maximal. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'apport alimentaire attendu. Dans le fond, c'est l'apport moyen que les gens vont consommer normalement. Là, on va parler plus d'environ 115 mg par jour. Donc, ces chiffres-là, on va juste les garder en tête pour un petit peu plus tard. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Mais ce que la FDA a statué comme dosage, ça n'a pas changé depuis 1998. Par contre, il y a eu des études depuis 1998, qui sont sortis sur le sujet, puis ça nous porte à nous questionner un petit peu sur la validité de ces informations-là. Comme par exemple, en 2008, il y a une étude de l'Université de Duke en Caroline du Nord qui a été faite sur des rats. Où est-ce qu'ils ont donné pendant 12 semaines 4 différents dosages qui est dans le fond de 1.1, 3.3, 5.5, puis 11. Fait qu'un dosage qui va être 3 différents dosages, dont un dosage qui se trouve être le double là, de la quantité qu'on va quantité maximale acceptée. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans tous les groupes étudiés, quand on le compare au groupe qui n'ont pas consommé de sucralose pendant cette période-là, il y a une diminution significative des bactéries bénéfiques au niveau de l'intestin. Dans certains cas, ça descendait jusqu'à 50% de la quantité initiale. Donc, on peut voir que ça a un effet assez prononcé sur la diversité de la flore digestive, qui a plein de rôles à jouer dans la santé. Mais ce qui est un petit peu plus alarmant là-dedans, c'est que 12 semaines après la fin de cette expérimentation-là, donc après qu'ils aient cessé de leur donner les dosages de sucralose, les bactéries étaient restées sensiblement au même niveau. Donc, il n'y avait pas eu de grosses différences. Les bactéries bénéfiques, ça s'était pas repopulé. Tellement. Puis, dans tous les groupes étudiés, il y a eu une augmentation au niveau de leur poids. Donc, ils ont tout engraissé. Fait que ça, c'est une autre chose qui nous sonne des cloches un petit peu. Puis, ils ont constaté aussi une augmentation de certaines protéines qui va se trouver, dans le fond, à aider l'excrétion de certains, certaines, molécules dans le corps. Ça, c'était surtout avec les dosages là, qui étaient plus élevés, qui étaient dans le fond en haut de ce que on appelle le dosage quotidien acceptable. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'augmentation de ces protéines-là peut venir jouer sur d'autres systèmes dans le corps, par exemple la détoxication de certains médicaments. Fait que ça pourrait nous porter à croire que si quelqu'un va consommer beaucoup, beaucoup de cette substance-là, ça se pourrait que ça vienne jouer sur l'effet de certaines médications que la personne peut prendre. Fait que là, quand il commence à avoir des interactions comme ça, c'est là qu'il faut commencer à faire attention. C'est sûr que toutes ces informations-là, ça a été fait sur des rats. Fait qu'on ne peut pas en tirer des conclusions claires tant que ce n'est pas chez l'humain. Mais reste que moi, si on me dit telle chose que tu consommes, on vient de faire une étude, on en a donné à des rats, puis leur métabolisme a été vraiment affecté, puis on a vu des effets vraiment indésirables de ça. Tu sais, je vais pas attendre nécessairement qu'il y ait une étude chez l'humain qui a prouvé que c'était pas bon pour peut-être essayer de moins en consommer. Tu sais. Ça c'était en 2008. Puis là, il y a une étude qui est sortie, qui a été publiée dans le journal Nature en novembre 2014, qui est une très bonne étude, puis qui a démontré là, que la consommation de sucralose induit une dysbiose, donc un changement au niveau de la flore digestive et une intolérance au glucose, donc la résistance à l'insuline chez les rats et chez les humains. Puis, assez rapidement, on pouvait constater en dedans de une semaine des gens qui consommaient là, des dosages considérés comme acceptables. On pouvait constater là, une moins bonne gestion là, du glucose. Donc, ça pourrait nous porter à croire qu'à long terme, ça pourrait vraiment nuire à la perte de gras. Puis en fait, il y a d'autres études qui avaient été faites là-dessus, qu'ils ne voyaient pas nécessairement les mécanismes, mais ils se rendaient compte que quand les gens commençaient à consommer des édulcorants pour remplacer le sucre, surtout dans les boissons, les gens perdaient pas nécessairement plus de poids, même s'ils avaient coupé une quantité significative de sucre. Puis ils n'étaient pas moins résistants à l'insuline. Donc, ça diminuait pas l'incidence de diabète, toutes ces choses-là, de consommer des boissons diète. L'affaire, c'est que là, ça, on n'en entend pas parler parce que c'est sûr qu'il y a un lobbyisme qui est vraiment très fort derrière ça, parce que ça fait depuis le début des années 2000 que ces choses-là sont approuvées. Puis, il y a une grosse business derrière ça. Donc, c'est sûr que là, quand on va parler au niveau gouvernemental, tout ça, l'information va être influencée de manière à ce que, tu sais, on en sache, mais on ne sache pas nécessairement tout. Mais dans le fond, ce qu'on veut garder en tête, c'est que la consommation de sucralose dans des dosages considérés comme acceptables va causer de la résistance à l'insuline. Donc, n'importe qui veut perdre du gras, prendre de la masse musculaire ou juste optimiser sa santé, va avoir beaucoup plus de difficultés s'il consomme un dosage de sucralose là, qui est encore considéré comme acceptable. Mais ce qui est encore plus insidieux là-dedans, c'est que comme qu'on a vu, la dysbiose, parce que c'est le changement de bactéries qui va avoir un effet sur l'intolérance au glucose, mais ça peut prendre beaucoup de temps après de l'avoir cessé à se renverser. Donc, ça va nous causer des problèmes, pas juste sur le moment, mais ça peut prendre un certain temps à se renverser si on a une résistance à l'insuline qui va être causée là, plus directement par ça. Là, si on regarde au niveau des suppléments qui se vendent, là, j'ai fait une publication sur Facebook qui a fait quand même assez réagir là-dessus. où est-ce que je disais que c'était possible de consommer jusqu'à l'équivalent de 50 sachets de Splenda. Splenda, qui est dans le fond la marque la plus connue de sucralose, dans une journée. Que dans le fond, dans une journée, c'était possible de consommer l'équivalent de 50 sachets de Splenda juste avec nos suppléments si on ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'on ne regarde pas l'accumulation de sucralose qui peut se produire. Fait que je vais donner un exemple. Mettons. Là, c'est un exemple un peu extrême, mais disons que les dosages peuvent aller jusqu'à 100 mg par jour, là, par portion, dans certains suppléments là, pour les gens qui s'entraînent, qui est, si on regarde, qui est environ le quart, même entre le quart et le tiers de l'apport quotidien maximal acceptable pour une personne moyenne. Fait que c'est quand même un gros dosage, tu sais, 100 mg, si on y pense, c'est l'équivalent de environ 8, presque 8 sachets et demi de Splenda. Fait que tu sais, si tu vois quelqu'un se prendre un café, puis que là, il sauve 8 sachets de Splenda, j'imagine que, tu sais, la réaction va être, c'est clairement pas santé de prendre autant de Splenda, mais dans un scoop de certains suppléments en poudre, ça va être souvent ça l'équivalent en sucralose qu'on peut trouver. L'affaire, c'est qu'il y a des suppléments qui ne contiennent pas de sucralose. Et là, il faut savoir qu'est-ce qu'on consomme. Il ne faut pas toujours tout mettre dans le même panier parce qu'il y a des suppléments avec de meilleure qualité que d'autres. Puis, il y a des compagnies qui vont être plus consciencieuses de ce qu'ils vont offrir à leur clientèle. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut... C'est important de comme, écouter des podcasts comme vous faites. Puis de se renseigner, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, puis de regarder ce qu'on consomme. Donc, je vais donner un exemple là, de... C'est un exemple d'une journée typique, mais il y a beaucoup de gens que ça va être leur journée. Là. Fait que, disons que la personne est mal informée, puis elle a acheté juste des produits qui sont sucrés au sucralose. Donc, disons, la personne, elle prend le matin pour déjeuner, elle se prend un shake de protéines, donc qui contient 100 mg de sucralose. Fait que c'est ça son déjeuner, elle prend ça avec des fruits ou peu importe, mais sa source de protéines, c'est de la protéine en poudre, 100 mg là. La personne fait sa journée, tout ça. Là, ça va s'entraîner. Fait que là, avant son workout, tu vas prendre un scoop de pré-workout pour te donner un petit boost puis une petite pompe. Mais là, le pré-workout, il goûte le ciel. Pourquoi? Parce que il est sucré avec, encore là, un haut dosage de sucralose. Fait qu'on va encore mettre 100 mg. Fait que là, on est rendu à 200 mg. Fait que là, la personne, ça fait dire qu'il faut qu'elle prenne des BCA quand elle s'entraîne pour pas être catabolique, pis ci pis ça. Fait qu'elle décide de prendre un 10 g de BCA, ce qui va être l'équivalent de 2 scoops de BCA, puis elle boit ça pendant son workout. Là, encore là, ces BCA, ils goûtent tellement bon, c'est malade. Pourquoi? Parce que là, dans son shake, il y a l'équivalent de 200 mg de sucralose. Fait que là, on est rendu déjà à 400. Fait que là, la personne a déjà dépassé, dans le fond, on a pris un shake, un scoop de pré-workout, puis deux scoops de BCA, a déjà dépassé le dosage quotidien acceptable d'une personne moyenne. Mais là, sa journée n'est pas finie encore, parce que là, la personne finit son workout, puis là, elle veut récupérer, fait que là, elle veut construire de la masse musculaire, blablabla. Fait que là, OK, on prend, après l'entraînement, un autre scoop de protéines en poudre. La même marque qu'elle a utilisée pour déjeuner, fait que deux shakes dans la journée. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça, prendre un à deux shakes par jour. Donc, la personne s'est pris un deuxième shake, fait que là, encore là, un autre 100 mg de sucralose. Fait que là, on est rendu à 500 mg. Là, on commence à dépasser de quand même beaucoup le dosage quotidien considéré maximal, acceptable. Fait que là, on est rendu dans un dosage que, selon la FDA, qui a pas mis ses affaires à jour depuis 1998, on a rendu un dosage de sucralose qui est considéré comme néfaste. C'est en haut de ce qu'eux considèrent comme non toxique. Puis là, la journée n'est pas finie encore. L'exemple que je donne, La personne aime tellement le goût de CBCAA, puis a tellement peur de tomber catabolique dans la journée qu'elle va se prendre une scoop de BCAA qu'elle mélange dans sa bouteille d'eau, puis elle sirote ça un petit peu tout le long de la journée parce que de l'eau, ça goûte plate. Fait que là, on vient de rajouter un autre 100 mg de sucralose par-dessus tout ça, ce qui nous donne un total de 600 mg de sucralose dans notre journée. Ce qui donne en réalité l'équivalent exactement de 50 sachets de Splenda consommés dans une journée. Fait que là, si on compare ça aux chiffres que j'ai donnés au début, on se trouve à dépasser 200 mg, le dosage quotidien maximal accepté, acceptable selon la FDA. Pour une personne de 180 livres. Là, je ne parle pas d'une personne de 130 livres. Là, si c'était une personne de 130 livres qui consommait ça, tout ça dans sa journée, c'est sûr qu'il y en a parce que le nombre de personnes que je vois boire des BCA à longueur de journée, là, on se trouve à être au double. Fait que, tu sais, par exemple, on va prendre, mettons, une personne de 130 livres, des filles qui font des compétitions de fitness à la fin de leur compé, c'est une pratique très courante qu'on va voir de prendre des BCA à longueur de journée, des 40 grammes de BCA par jour, des 60 grammes de BCA par jour. Mettons que quelqu'un prend 60 grammes de BCA par jour, ben si par portion il y a 100 mg de sucralose, on vient de buster le 1000 mg par jour. Fait que, il n'y a pas d'étude qui a été faite à des dosages aussi élevés que ça, mais si on se fie à ce qu'on a, probablement que ça cause une méchante résistance à l'insuline. Fait que là, tu as la personne qui veut compétitionner, qui a peur du catabolisme musculaire, puis qui a besoin de perdre du body fat, qui s'induit avec des hauts dosages de sucralose, une résistance à l'insuline qui vient contrecarrer l'effet, ses efforts pour perdre du gras. Fait que là, elle a plus de difficultés à perdre du gras. Fait que là, elle va augmenter son cardio à jeun, par exemple. Fait que là, elle va faire 6 heures de cardio par semaine. Fait que là, on va consommer plus de BCAA parce qu'elle ne veut pas tomber catabolique. Fait que là, c'est probablement que la personne n'aurait juste pas pris de BCAA pantoute, puis elle aurait eu des résultats similaires. T'sais. Sauf que là, après sa compétition, ben, elle va rester avec une résistance à l'insuline. Fait qu'est-ce qui arrive quand la personne recommence à manger? Elle va engraisser beaucoup. Mais ce genre, cet exemple-là, on va voir ça beaucoup aussi chez des gens en perte de poids. T'sais, des gens qui ont déjà une résistance à l'insuline. Quelqu'un qui a 20-30 livres à perdre, qui s'est tout situé au niveau du tour du ventre. Puis là, puis c'est toujours des gens consciencieux de leur santé qui vont faire ça, t'sais, malheureusement. Fait que là, on va avoir quelqu'un qui veut perdre un 20-30 livres. Va chez Popeye, se fait conseiller, on dit ben, faut que tu prennes un pré-workout. Même j'ai déjà vu des fat burners qui contiennent des dosages comme ça de sucralose. Il n'y a pas d'étude qui a été faite sur ces genres de mix-là, mais probablement que ça vient contrer complètement entre l'effet fat burner des produits qu'il y a dans un fat burner. Puis l'effet de résistance à l'insuline, du sucralose, il n'y a pas d'études faites sur le sujet, mais de ce que j'ai lu, logiquement, tu as plus de chances de ralentir ta perte de gras à prendre ça que de l'accélérer avec le fat burner. Parce que si tu regardes vraiment la littérature scientifique, tu regardes ingrédient par ingrédient, ce qu'il y a dans les fat burners, généralement, la conclusion des études pour la majorité des suppléments, sauf des ingrédients, sauf la caféine, c'est presque toujours n'a pas été démontré efficace chez l'humain pour l'oxydation des graisses. Mais quand tu regardes, par contre, les recherches sur le sucralose, ça a été démontré que ça faisait prendre du poids puis que ça induisait une résistance à l'insuline. Donc, faut faire bien attention. Fait que là, tu sais, t'as quelqu'un qui veut perdre du poids, qui a besoin de perdre du poids, qui a déjà une résistance à l'insuline causée par une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation. Puis là, on va aller se chercher des suppléments. Peu importe le magasin, j'ai nommé Popeye's tantôt, mais c'était pas pour les viser du tout. En fait, je connais même pas les produits qui tiennent là-bas. Fait qu'on va juste dire n'importe lequel. J'ai dit si ce magasin-là, juste parce que c'est le plus connu. Mais, tu sais, il va aller chercher un pot doué, un pré-workout, un fat burner, des BCAA. Puis là, la personne va se trouver à consommer une quantité énorme de sucralose si elle regarde pas ce qu'il y a dedans, parce qu'encore là, c'est pas tous les produits. Faut regarder, il y a beaucoup de compagnies aussi qui vont sucrer avec de la stevia, qui a pas du tout ces effets-là. C'est pour ça qu'il faut jamais mettre tout dans le même bateau, mais faut savoir qu'est-ce qu'on consomme. T'sais, si on achète des produits et qu'on regarde pas les ingrédients, on se fie à la chance pour savoir si on met notre santé dans les mains de la chance. Donc, faut regarder comme il faut. Mais c'est ça. Fait que souvent, il y a des gens qui vont être consciencieux de leur santé, qui vont prendre des produits, puis qui vont en fait avoir l'effet complètement inverse. Fait que si on s'équipe de tous ces suppléments-là, qui va nous coûter un bon 200-300$ par mois là, de consommer tout ça, là. Puis que, au lieu d'avoir un effet positif, quand on regarde globalement, ça a plus d'effets négatifs que positifs, c'est de l'argent pitché par les fenêtres, t'sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas pour vendre mes services, mais on devrait toujours investir dans de la bonne information au lieu d'investir dans du marketing. Donc, ce que je veux dire, c'est d'écouter ce que les compagnies vont nous dire. Donc, faut faire très attention avec tout ça. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Mais en résumé, regardez qu'est-ce qui est contenu dans vos suppléments. Puis le sucralose, j'essaierai de l'éviter. Puis une chose que je voudrais rajouter, c'est que quand on regarde les produits qui contiennent du sucralose, c'est très malheureux. Puis je pense que ce serait important qu'au niveau peut-être gouvernemental, il y ait plus d'encadrement là-dessus. Mais l'industrie du supplément, en poudre particulièrement, ça va être la plus grande source de sucralose qu'on peut avoir, tu sais. Parce que oui, il va y avoir des sachets de Splenda au restaurant, mais tu sais, les gens vont en mettre un, des fois un demi-sachet dans leur café pour sucrer les affaires. Fait que là, on parle de mettre, tu sais, 6 à 12 mg de Splenda dans un café, t'sais. On va voir des fois des gens qui, un peu intenses, qui vont se mettre 4 sachets de Splenda dans leur café, au Tim Hortons, peu importe, tu sais. Mais là, déjà là, 4 sachets, on parle de 48 mg, tu sais. Ce qui est un dosage que, selon moi, qui est déjà trop élevé. Mais là, quand on parle de suppléments, ça peut aller à 100, 200, 300, comme jusqu'à 600 mg dans l'exemple que j'ai vu. Fait que je trouve ça très malheureux de voir qu'une industrie qui est censée avoir la santé des gens à cœur peut, dans certains cas, avoir l'effet inverse complètement. Fait que ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'on se revoit, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Juste avant de partir, si vous voulez plus de trucs pour augmenter vos performances, optimiser votre métabolisme, pour prendre plus de masse musculaire ou pour perdre du gras plus efficacement, suivez-moi sur Facebook et Instagram sous le nom de Coach Boucher. Aussi, si vous aimez mon podcast, s'il vous plaît, laissez-moi un review sur iTunes. Et pour vous remercier de votre écoute, je vous offre gratuitement mon e-book « Les 55 meilleures méthodes pour le développement de force et de masse musculaire ». Pour vous le procurer, vous avez juste à aller sur mon site web www.gbperformance.ca et utiliser le code promotionnel PODCAST, P-O-D-C-A-S-T, et vous allez pouvoir télécharger mon e-book 100% gratuitement. Sur ce, on se reparle la semaine prochaine.